Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Marc, chapitre 1. Verset 35 à 39. Seigneur, merci pour l'introduction de Benoît, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, qu'il a étudié, Seigneur Dieu, pour placer bien les bases de mon message. Et je t'en suis reconnaissant. Bénis-toi tant qu'on est ensemble avec ta parole. Montre-nous, Seigneur, comment prier. Invite-nous, Seigneur Dieu. Voudrais-tu qu'on vienne dans ta présence? Est-ce que tu voudrais qu'on rentre dans la salle du trône comme un fils de roi, comme un fils du président, puis qu'on puisse passer du temps ensemble? Toi et moi. Pourquoi est-ce que j'irais passer du temps avec mon Papa Céleste? Qu'est-ce qui m'attirerait ce matin, Seigneur, à chercher un endroit désert, un endroit seul, une chambre où je ferme la porte, un char où je suis tout seul dans mon char, ou ben non, pourquoi j'irais sur le bord du lac Boivin, ou ben non, du lac Boustrode? Pourquoi j'irais sur le mont Saint-Michel toute seule? Pour passer du temps avec mon Père Céleste. Seigneur, je prie que tu nous attires à toi, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 1, 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva pour sortir, pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche! » Il lui répondit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi. » Et il prêchait dans leur synagogue, et par toute la Galilée, il chassait des démons. Dernièrement, je fais une lecture de la Bible qui est plus arrêtée. C'est-à-dire que au lieu de lire mes 4 chapitres par jour pour pouvoir lire ma Bible en un an, dès que je trouve quelque chose qui me parle d'une façon nouvelle, fraîche, je m'arrête là, puis je plante mon pieu là, puis je reste là. Puis là, j'écris, je médite. Je suis plus dans une phase de méditation, c'est-à-dire la méditation chrétienne, c'est d'apprécier ce qu'on comprend, tandis que la méditation des religions de l'Est, c'est souvent de faire le vide, puis penser à soi-même. Mais la méditation chrétienne, c'est de mâchouiller, de mastiquer, d'apprécier une vérité, puis de pas la laisser passer trop vite avant qu'elle ait été assimilée puis intégrée dans ma vie. Donc, c'est une lecture qui est beaucoup plus arrêtée, puis c'est une question que je me pose, moi, c'est comment est-ce que Dieu dirige? Comment est-ce que Dieu nous parle encore en 2021? Alors, quand je lis Joseph avec la façon que Dieu l'a dirigé pour le recensement, quand que je vois Anne qui jeûnait et priait, puis elle attendait le Messie, puis là, elle a rencontré le Seigneur, quand je vois ces personnages-là, ben je me pose la question, comment que ce gars-là a su, comment il s'appelait, lui? Le vieux monsieur, là, qui était dans le temple, puis qui attendait la consolation d'Israël. Puis Dieu, il avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Puis là, moi, je suis là, okay, comment c'est venu dans sa tête? Comment c'est venu dans son cœur qu'il savait qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus, le Sauveur? T'sais? Fait que je lis les Écritures, puis c'est beaucoup, comment, Seigneur, est-ce que tu nous diriges? Comment est-ce que tu nous parles encore aujourd'hui? Puis je trouve plein de belles choses. Puis il se trouve que dans le passage d'aujourd'hui, on trouve ce principe-là de comment Dieu nous dirige. C'est sûr que moi, ben, j'ai des décisions à prendre importantes pour ma compagnie, toujours pour l'Église. On est en train de vendre le bâtiment. Là, c'est des décisions qui sont grandes d'impact, ma santé aussi. Puis, j'essaie d'apprendre aussi à lire les actions de Dieu. Pascal, un grand scientifique, a dit « La Bible, c'est le livre des paroles de Dieu, puis l'univers, c'est le livre des actions de Dieu. » Puis, il avait appris à voir dans l'univers un Dieu intelligent qui était créateur, tout ça. Puis, j'essaie un peu de pratiquer cette vieille pratique religieuse qu'on avait donné le nom « Lectio Divina » en latin, qui veut dire « la lecture de Dieu ». C'est-à-dire d'essayer de voir les traces de Dieu. Comment est-ce que Dieu m'a visité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pourvu? Puis pour faire ça, ben je prends un petit livre, puis j'essaie d'écrire qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée, puis comment est-ce que j'ai vu le Seigneur agir. Puis, donc, j'essaie d'éprouver mes pensées aussi. Là. Moi, j'ai des projets, j'ai des désirs, tout ça, mais lui, qu'est-ce que Dieu, lui, il veut faire? Comment il va me diriger au travers de tout ça? Est-ce que c'est une pensée qui va venir dans mon idée, puis que cette idée-là, c'est le Saint-Esprit qui va l'avoir plantée? Fait que j'éprouve ça, j'évalue ça, puis je fais une rétrospective un petit peu de ça. Ma préparation de mon message est différente d'habitude. Donc, d'habitude, c'est éducatif. Vous sortez avec « Ah, tout souvent quelque chose. Ah, j'avais jamais entendu ça comme ça. Ah, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, ça sera pas ça. » Je vais parler à quelque chose que vous connaissez déjà. La majorité d'entre nous, on connaît déjà ces vérités-là. Et c'est vrai que c'est important, l'entraînement, mais vous en avez eu énormément d'entraînement avec le collège biblique, avec la série sur les évangiles que j'ai fait en 57 messages, je pense. Ça a été que ça, là, entre 9 et 15 heures de préparation par prédication, où j'injecte beaucoup d'informations. Puis Benoît l'a fait, il a donné pas mal d'entraînement. Fait que moi, je vais choisir un autre avenue ce matin. Je vais choisir l'avenue d'une préparation méditée. Un petit peu plus. Quelque chose un peu plus peut-être de mâchouiller ou de qu'on va juste chouer un peu sur comme une gomme qui a encore tout son sucre, là, tu sais. Puis le passage qu'on a regardé ce matin, c'est un principe de direction qui est important, que notre Seigneur suivait. Et le titre de mon partage, c'est « Près du Père, près du peuple ». « Près du Père, près du peuple ». Puis le principe, c'est qu'on se donne d'abord à notre Père Céleste dans la solitude, puis ensuite il nous donne au monde en public, il nous donne dans le monde. Puis ma prière ce matin, c'est que l'amour de Dieu presse sur nos cœurs, comme le Père était dans le Fils, qu'on puisse réaliser ensemble avant la fin de mon message que Dieu est en nous réconciliant le monde avec lui-même et Dieu veut donner envie au monde de la relation que vous avez avec votre Père Céleste. Puis vous dites peut-être, « Ouais, mais Jean-Sébastien, fou, tu me parles de solitude, tu me parles de prière. Je suis distrait. Je dis, « Ah, Seigneur, bénis cette journée. » Puis je pense déjà à tous mes tracas, mes soucis. Puis on dirait que mes prières ne montent pas plus haut que le plafond. Je ne vais pas ajouter une nouvelle discipline ce matin. Vous n'aurez pas une nouvelle chose à faire, à ajouter à votre horaire, OK? Qui est, il faut que je passe du temps avec Jésus en solitude. Peut-être que vous dites, j'ai perdu le chemin de la dévotion. Avant, j'avais l'habitude de faire des lectures. J'en fais encore un petit peu des lectures, mais disons qu'on a plus à faire à un repas de famille, moi, quand je rencontre Dieu. C'est-à-dire que je parle à Dieu quand je viens à l'Église. Mais savez-vous quoi? Ça fait plaisir au Père, ça. La semaine prochaine, mes enfants vont venir à la maison. Je vais être assis au bout de la table, puis je vais voir leurs amis. Je vais rencontrer la copine à Nathaniel aussi, donc je vais apprendre. On va passer du bon temps ensemble, puis je vais être content de passer du temps avec mes enfants. Mais je suis aussi content de passer du temps seul avec Kayla, ma fille, ou avec mon fils Nathaniel. Ce sont des temps qui sont privilégiés. Quand que je peux passer aussi du temps seul avec eux. C'est la même chose dans notre vie chrétienne. Peut-être qu'on a une relation plus de famille avec le Seigneur. On vient écouter sa parole, on est avec nos frères, on est plus encouragé à prier aussi quand on est en groupe. On dirait que ça nous donne des ailes un peu. T'sais. On se dit, c'est plus facile de se concentrer quand on est plus un groupe, tout ça. Donc, on peut avoir des prières distraites, décousues. Peut-être que vous dites, « Ah, moi, J'aime bien méditer, c'est-à-dire regarder la création, admirer le Créateur, tout ça, mais peut-être que vous avez peu discipliné votre esprit à méditer les vérités de la parole de Dieu. Donc, ce matin, ce que j'aimerais, c'est de vous encourager à ouvrir le sujet qui est comment c'est bon d'être seul avec notre Dieu. Quand vous êtes attiré par l'amour d'une personne, pensez à un conjoint, une conjointe ou un ami que vous aimez partager sa présence. Est-ce que c'est une discipline de plus à faire que de passer du temps? Tu sais, moi j'entends la famille Sirois qui dit « on s'en va à Gatineau, yeah! On s'en va voir nos amis, yeah! On va aller jouer aux cartes avec nos amis, ils ont hâte, ils tassent leurs affaires, prennent congé du travail. » C'est-tu un fardeau pour faire ça? Ce n'est pas un fardeau pantoute, hein? Ben, je veux pas non plus amener un message de condamnation, de dire « ouais, si tu vois la prière comme un fardeau, c'est parce que tu vois ça comme un programme. » Même pas. J'ai le goût de parler avec vous autres comment c'est bon d'être avec le Père Céleste. Comment c'est rassurant, comment c'est un refuge pour nous que de passer du temps avec notre Père. Par la grâce de Dieu, on va voir la relation que Jésus avait avec son propre Père et comment, quand il se donnait au Père en privé, il pouvait se donner aux gens en public ensuite. Le lendemain, le texte dit le lendemain de quoi? Ben le lendemain, effectivement, de ce que Ben a raconté, les guérisons de plusieurs démoniaques, la belle-mère de Pierre qui avait une fièvre chronique. Donc le lendemain le surlendemain, si on parle du coucher de soleil, là, du démoniaque qui a été délivré dans la synagogue. Et là, c'est un nouveau matin. Il fait pas encore clair. Marc, il dit qu'il faisait encore noir. Puis, je vais juste arrêter ça. Je vais me mettre... il fait encore noir. Puis Jésus, il dit, je me cherche une place où que personne ne sait où ce que je suis. Mais on va me cacher. Il va aller se cacher, puis il va aller, c'est écrit, « Alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » Verset 35. Pourquoi prier? Jésus est Dieu, le Fils. Je veux dire, c'est le Créateur de l'univers. Pourquoi prier? Eh bien, c'est parce qu'il dépendait de la direction du Père puis de la puissance du Saint-Esprit pour faire ce qu'il avait à faire devant les hommes. Puis c'est drôle pour nous, mais Jésus s'est abaissé. Philippiens dit qu'il s'est rendu comme un simple serviteur, il s'est abaissé, puis il a éloigné les privilèges d'être Dieu. Il les a mis de côté pour être un vrai homme comme nous, avoir besoin de conseils de son Père quand il y avait des choses à faire, à savoir quoi dire, où aller, quand aller, qui toucher, qui pas toucher, qui guérir, qui pas guérir. Le Père avait un plan. Puis le Fils voulait le suivre. Dans Jean 5, 19, il dit, « Le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père et le Père, écoute ça, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Jean 5, 19 et 20. Wow! Jésus dit, « Ce que Papa fait, je le fais. Ce qu'il veut dire, je le fais. » Jésus était l'apprenti du Père. Jésus avait besoin du Père pour ce qu'il y avait à faire. Hey, pas. On est à Capernaum parce qu'à Nazareth, ils ont voulu me jeter en bas de la montagne. Fait que là, on est à Capernaum. Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Deuxième voyage missionnaire. Le premier voyage missionnaire, ça a été de partir de Jérusalem et traverser la Judée et commencer à se faire connaître à Cana, en Galilée, et tous les pays proches de Capernaum. Hein? Ça, c'était son premier, c'était son premier voyage. Le deuxième voyage, ça va être Capernaum, puis il va partir de Capernaum, puis il va aller à plein de villes autour. Seigneur, aujourd'hui, je suis à Capernaum, tu veux-tu que je reste encore? Tu veux-tu que je parte? Qu'est-ce que tu veux? Qui veux-tu toucher? Qu'est-ce que tu veux faire? On n'entend pas ça, on ne lit pas ça dans la Bible. Ça se peut que ce soit ça qui est dit, ça se peut que ce soit pas du tout ça qui est dit. Est-ce une ville, Seigneur, que tu aimerais que je serve? Est-ce qu'il y a une ville que tu aimerais que je visite spécialement dans la tournée? Tu veux-tu que j'aille dans les maisons en premier ou dans les synagogues? Qu'est-ce que tu veux? N'oubliez pas, il est fils, puis il s'est abaissé pour avoir besoin du Père pour être enseigné. Et peut-être que le père il a répondu, « Hey, il y a un paralysé qui ne viendra jamais à Capernaum. Là, il est pogné, il est complètement quadriplégique. Prochaine histoire qu'on va étudier. » Ou encore le lépreux qui se tient à la porte de la ville, qui ne peut pas approcher la ville de Capernaum. Et Jésus veut le rencontrer sur ce chemin-là. Le père veut le rencontrer, puis Jésus va le rencontrer. T'sais? Mais peut-être que le père il a juste mis une conviction dans son cœur. « Fais le tour. Reste pas à Capernaum. Fais le tour. » On ne sait pas exactement, mais peut-être qu'il a commencé à faire le tour, puis c'est en avançant qu'il a découvert le paralytique ou le lépreux qu'on va voir dans les prochaines histoires. Mais une chose est certaine, Dieu le conduirait. Dans Hébreux, au chapitre 5, c'est écrit que Jésus a présenté à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5, verset 7. Ce passage-là fait référence principalement aux prières que Jésus a adressées à Gethsémané quand il a dit à ses disciples, « Restez là, je vais aller dans un lieu à l'écart pour prier mon Père. » Puis là, il y a eu cette lutte-là, « Père, est-ce que tu éloignerais cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté? » Puis c'est des cris, des larmes qu'il a adressées à son Père dans le jardin de Gethsémané, mais ça s'applique certainement à quand ils ont voulu le jeter en bas de la montagne. Écoutez, nous, on lit ça avec détachement. Tu sais? C'est voisins, là. C'est les gens que, quand il était petit cul, là, il a grandi dans ce village-là, à Nazareth, puis je veux dire, c'est peut-être même fait garder par ces gens-là, tu sais. Ces gens de son propre village ont voulu le jeter en bas de la montagne, tu sais. Moi, je pense qu'il a offert des supplications puis des larmes à son père pour ces moments de souffrance-là aussi. Le texte continue dans Hébreux en disant, « Il a appris l'obéissance. » Quoi, Jean-Sébastien? Jésus a appris l'obéissance. Oui, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand il souffrait, il allait voir son père et il disait, « Seigneur, j'arrête-tu de les servir ou je continue de les servir? » Change de village. OK, il a changé de village. Parfois, il restait quand on l'acclamait puis on disait qu'on voulait qu'il reste. Puis d'autres fois, il devait rester à un endroit où on cherchait à le faire mourir. Là, 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 là. Il avait besoin d'apprendre l'obéissance, il avait besoin d'apprendre le discernement, puis de savoir que c'est que Dieu il voulait là, pour lui. Ah là là. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et combien à plus forte raison si Jésus, qui était le Fils de Dieu, sans péché, il avait besoin d'apprendre à obéir dans les choses qui sont difficiles. À combien plus forte raison on a besoin de notre Père pour dire, « Ben Seigneur, papa, comment tu ferais ça, toi? Tu le ferais comment? Conseille-moi. » Il devait partir quand on le pressait à rester. Il devait rester quand on le pressait à partir. Je l'ai dit tantôt. Donc, dans ce que Jésus devait faire, où il devait aller, il devait demander au Père, et dans ce qu'il devait dire, et à qui le dire et à quel moment le dire, il devait aller au Père. Écoutez ceci. Dans Jean 8, 28, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jésus y ouvrait la bouche parce que le Père l'avait enseigné dans le secret. Hein? Ésaïe 54, « Le Seigneur a ouvert mon oreille pour que je sache écouter comme écoute un disciple, afin que je soutienne par la parole. » Les autres, hein, les personnes. Fait que ça, c'est une prophétie de notre Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur se faisait ouvrir l'oreille par le Père, dans le privé. Fait que c'était important pour lui de prendre un temps à l'écart, sans les foules, pour recevoir un enseignement, pour pouvoir, après ça, se donner aux autres. Il se donnait au Père, et ensuite, il se donnait aux autres. Et il disait ce que le Père lui avait montré. Pour Jésus, le plan du Papa céleste, c'est de savoir quoi faire, quoi dire, et ça vaut mieux que les meilleurs plans échafaudés seuls. Jésus, même s'il était un des trois de la Trinité, il voulait pas faire son plan. Il était venu pour faire la volonté de son Père. Et ça nous interpelle gros parce qu'on a besoin, nous autres aussi, de dire, ben Seigneur, je suis certain que si on va en prière, le plan va être meilleur que celui qu'on aurait pu penser ou même imaginer avec les meilleurs stratégistes dans le monde. Parce que toi, tu es vraiment, tu as un plan parfait pour ma vie. Jésus est le Dieu abaissé, dépouillé, réduit à une position de serviteur. Il est serviteur du Père en premier et le serviteur des autres ensuite. Ça va être important. C'est important qu'on saisisse ça. On est les serviteurs du Père en premier, puis les serviteurs des autres ensuite. Il se retirait seul avec le Père pour passer en priorité son Père et connaître qui, quoi, quand et comment être la meilleure version de lui-même pour les autres. C'est ce qu'on a besoin de faire en tant que mère, père, employé. Et dans notre place dans le monde, on a besoin de dire, « Seigneur, je veux être la meilleure version de moi-même et c'est pour ça que je viens te voir en premier. » Et là, le jour se lève, les gens se réveillent, puis là, ils voient que le Seigneur n'est pas là. Puis là, il y a plein de monde, là. Tout le monde, c'est la frénésie. Écoute, là, il y a eu des démoniaques, il y a eu des guérisons, puis il y en a d'autres encore à guérir. Puis, « Hey, Seigneur, moi, je connais, il y a ma cousine qui a la même maladie, mais tu viendrais-tu dans tel village? » Fait qu'il y a une pression qui est là. Et dans Marc, ça dit, « Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. » Mais dans Luc, c'est écrit, « Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. » Dans Marc, il continue en disant, « Quand ils l'eurent trouvé, ils dirent, « Tout le monde te cherche. Hein? » Dieu t'aime et il y a beaucoup de gens qui ont un plan pour ta vie. Dieu t'aime et il y a beaucoup de gens qui ont un plan pour ta vie. Les autres ont un plan pour ta vie. Non, Dieu t'aime et Dieu a un plan pour ta vie. Jésus, ça ne dérange pas trop qu'il y ait des gens qui le cherchent. Puis que là, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Il y a plein de monde qui te cherche. Jésus n'est pas au service des besoins, il est au service du Père. Puis il veut vraiment connaître la priorité de qu'est-ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Hein? Il y a des prophéties sur les villages qui entouraient Capernaum, puis ça dit, « Sur le peuple qui vit près de la mer, le soleil s'est levé et une grande lumière a resplendi. » Puis c'est le Seigneur Jésus qui est en train de montrer comment il les aime puis qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Et là, les gens sont « Wow! » Je veux dire, il y a de l'espoir, il y a une délivrance, il y a des guérisons. On veut te garder avec nous. Et dans Luc, c'est écrit, « Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. » Et Jésus leur répond, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Dans Marc, sur ce qu'il doit faire, et dans Luc, sur ce qu'il doit dire. Dans Marc, il dit, « Allons dans les villes voisines afin que j'y prêche, car c'est pour cette heure que je suis sorti. » C'est pour cela que je suis sorti. Sorti de quoi? Sorti de sa cachette. Il était caché, mais il est sorti, puis il sort pourquoi? Pour aller dans les autres villages. Il sort avec la conviction que même si les gens, c'est comme, « Hey, on veut te garder », je veux dire, tout stratégiste dirait, « Reste là. » Un stratégiste dirait, « Le feu pogné ici, reste ici. » Je veux dire, regarde, là, ta renommée va se répandre. Hein? Dans Luc, il dit, « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il sort avec l'idée de ce qu'il doit dire et de ce qu'il doit faire et où il doit le faire et où il doit le dire. Pour Jésus, sa priorité n'est pas de guérir des maladies ou délivrer des démoniaques, c'est d'annoncer la bonne nouvelle avec les signes qui accompagnent cette proclamation-là, qui sont des miracles, qui attestent que c'est vraiment lui qui a été envoyé, puis qui confirme la prophétie qu'il a dit dans la synagogue avant-hier, « Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, puis après ça, pour annoncer la délivrance à ceux qui sont prisonniers, puis pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hein, » Donc, c'était des signes qui attesteraient son message. Jésus, il sort de ce temps-là où il a passé du temps avec son Père, avec la conviction qu'il doit passer d'un village à l'autre et qu'il ne doit pas rester, même si on le presse à rester. La prière, c'est l'endroit pour focaliser nos priorités et devenir la meilleure version de nous-mêmes pour les autres, même si ça veut dire non pour dire oui à d'autres choses. Même si on nous presse de rester, les gens ont un plan pour notre vie, des fois c'est de dire non pour pouvoir dire oui à d'autres choses. Et là, la pression du service augmente parce que sa renommée se répand puis on sait de ce qu'il est capable de faire, mais pour lui, ça ne l'empêche pas de se retirer et laisser les besoins attendre. Et il veut entendre le Père lui dire qui, quand ou comment. Quels sont les besoins qui vont être à combler? La popularité n'est pas l'indicateur de succès. Puis ça, c'est important. C'est important pour nous autres. Je veux dire, no waste. 8 personnes, 100 ans de construction. On voit aujourd'hui partout sur toute la surface de la Terre des strates de dépôts sédimentaires, des jellyfish qui n'ont pas d'os fossilisés en Australie, des os de grosses baleines sur les grandes montagnes, les hautes montagnes du monde. On sait qu'il y a eu un gros désastre. Puis Noé, pour lui, c'est comme, il va-tu avoir du monde? On dirait qu'il y a juste des animaux dans ce bateau-là. 8 personnes, beaucoup de raillerie, des écharpes c'est dans les mains, des mots d'eau. 8 personnes. Sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Point. Beaucoup de temps, beaucoup d'écharpes, beaucoup de raillerie, 8 personnes. Mais, pour Dieu, c'est l'humanité entière sauvée d'une invasion de démons, parce qu'on sait que les démons sont venus coucher avec des femmes pour faire des races d'hommes demi-races, pour que le Messie ne puisse pas naître dans le monde. Pour Dieu, c'est beaucoup plus que 8 personnes. Il fallait faire ça. C'était un recommencement, une humanité qui allait recommencer. Incroyable. La popularité, Jésus, quand il a multiplié les pains, tu en parlais tantôt, Benoît, il multiplie les pains, les gens y ont mangé, et c'est écrit, ils étaient sur le point de l'enlever. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait le faire roi. Hey, c'est comme règne sur nous. Et c'est écrit, il chassa la multitude, il monta dans la montagne, et là, il pria lui seul. Jean 6, 15. Il renvoie la foule, se monte dans la montagne, passe du temps seul avec son père. Il ne cherche pas la popularité, le Seigneur. Il ne cherche pas à être reconnu. Puis quand on passe du temps avec notre père, ça c'est plate, parce qu'il n'y a personne qui va te reconnaître pour ça. Il n'y a personne qui va te reconnaître pour avoir passé une demi-heure à parler à ton Père Céleste. Hein? Mais le monde va nous reconnaître pour plein d'autres choses qu'on va faire, mais pas pour ça. Dans une campagne publicitaire, on investit où il y a des plus grandes chances de retour. S'il y a de la popularité, plante ton pieu là, voilà. T'sais. Le succès pour Dieu, c'est pas ça. Le succès pour Dieu, c'est que le plus grand nombre de personnes qui peut entendre le message de l'Évangile, même s'il rejette, c'est un succès. Parce que l'homme a eu la chance de se réconcilier avec son Dieu, il ne l'a pas pris. C'est un succès parce que pour Dieu, la réconciliation a été offerte à tout homme. Puis Dieu veut offrir la réconciliation avec tout homme. Paul, il disait, « Moi, je me fais un honneur d'annoncer là où Christ n'a pas été nommé. » Hudson Taylor, un missionnaire du siècle dernier, a entendu dire qu'en Chine, dans les villages, il n'y avait pas, l'Évangile n'avait pas été proclamé, les gens ne savaient même pas qu'un Jésus était venu. Puis le gars, il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il évangélisait les gens en Angleterre, puis il commençait à vivre avec un pain noir par jour. Il se disait qu'il fallait qu'il s'habitue à la pauvreté, puis là, il est devenu malade, puis tout ça, mais il s'est vraiment comme abaissé, puis il s'est préparé à partir, puis à donner sa vie pour le peuple chinois. C'est succès? Non. Tu t'envoies une place qu'on va peut-être te manger pour souper. Là, tu sais, quand ceux qui sont partis missionnaires en Amérique du Sud, il y en a qui ont fini sur le charcoal, là. Des Canadiens qui ont parti, puis sont allés, ils ont fini le charcoal. Ils ont commencé par envoyer des cadeaux à... Il envoyait l'Évangile puis des cadeaux là, par avion pour les amadouer un peu parce que c'était des cannibales. Puis, ils ont dit non, moi je m'en vais là puis si je meurs, je meurs. Tu sais. Ça, c'est du succès. Je dis ah ouais? Ouais. Parce qu'après ça, la femme est allée revoir ces gens-là. Elle les a pardonnés puis elle a annoncé l'Évangile. Puis ces peuples-là, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Le succès selon le monde, c'est toujours la popularité, avoir plus, tout ça. Le succès selon Dieu, c'est que tu veux marcher pieusement avec Jésus-Christ, tu vas manger de la gravelle. Ceux qui veulent marcher pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. J'ai dit à quelqu'un qui a accepté Jésus la semaine passée, j'ai dit, ça va aller mieux dans ta vie, puis ça va aller mal. Ça va aller mieux parce que le Seigneur va commencer à te guérir, ça va aller mal parce que tu viens de passer du côté de Christ. Et donc, tu partages aussi ses adversaires, c'est-à-dire les démons, ceux qui ont chuté de la gloire céleste. Tu viens de ramasser des ennemis de Christ. Si tu veux marcher avec Jésus, tu vas manger de la gravelle. Donc, le succès pour Dieu, ce n'est pas le succès selon le monde. Vous lirez à la maison dans Jean 12, 23 à 26, Jésus dit que si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il dit, là où je suis, là aussi mon serviteur va être. Et jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, peu importe qui vous êtes, parce que je vois une adolescente là, on a besoin que nos prières soient pas juste autour de notre nombril, puis notre prochaine épicerie, ou notre prochain copain, ou... Tu sais, le plan pour Dieu, pour notre vie, c'est pas juste d'avoir un chum, ou une blonde, ou un travail. C'est aussi de savoir, Seigneur, c'est quoi, pourquoi tu m'as mis sur la terre, puis comment est-ce que je pourrais te servir et servir les autres? Comment je pourrais être une bonne version de moi-même? On peut prier pour ton diabète. On peut prier pour ta santé, on peut prier pour tes finances, mais à la fin, là, ce qui est important aussi, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, puis après ça, les autres choses vont nous être données. C'est pour ça que Jésus, quand il dit « Je vais vous enseigner comment prier », il va dire « Allez dans le lieu, là, fermez votre porte, priez, puis dites « Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oui, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, amen, là, tu sais, tout ça. Mais au début, c'est quoi? C'est, Seigneur, tu es un roi, puis moi, je suis ton sujet. Puis, je veux être la meilleure version de moi-même dans le monde, ça veut dire, je veux faire ce que toi, tu as préparé pour moi. Un père de l'Église a dit, quand on demande au Seigneur quelque chose qui nous permet de mieux le servir, ce n'est pas rare de l'obtenir. Quand on demande au Seigneur quelque chose qui nous permet de mieux le servir, il n'est pas rare de ne pas l'obtenir. Il y a beaucoup de ne pas, là, mais je pense qu'on a saisi. Jésus dit, cherchez la justice et le royaume de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Jésus se retire seul pour prier. Il passe toute une nuit, la Bible dit, pour choisir ses disciples. Donc, il y avait des milliers de gens qui le suivaient. Puis à un moment donné, il a choisi les apôtres, qu'il appela apôtres. Puis le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Il allait prendre 12 personnes parmi des milliers de gens qui le suivaient pour dire, ces gens-là, il va vivre avec eux autres pendant 2 ans et demi. Il va les prendre très près. Puis on va voir ça dans les prochains messages. Il va commencer à se les prendre pour lui. Mais avant, il est allé voir le Père, puis il a passé une nuit, le texte dit dans Luc 6, 12, en prière. Seigneur, Charlotte, Jean-Claude, Ginette, qui tu veux? Parce que là, les autres viennent à temps plein. Là. Les autres, là, ils vont dépendre que du Père pour leurs besoins. Là. C'est du ministère à temps plein. C'est comme si ici, on choisissait 1, 2 ou 3 personnes pour dire, vous quittez votre travail, là, faites confiance à Dieu, vous venez à temps plein avec moi. On fait le ministère. Jésus, il lance un appel à vivre à temps plein à ces 12 personnes-là, mais des fois, ils vont retourner au métier de la pêche, mais ils vont être principalement la majeure partie du temps avec le Seigneur. Une nuit en prière pour choisir les 12. La prière dans la solitude. Jésus dit, quand vous priez, fermez votre porte. Fermez la porte de votre chambre. Et le Père qui vous voit dans le secret va vous le rendre. Puis il va dire 2 autres choses dans le même passage. Ça, c'est le même chapitre que le Notre Père quand il dit « Ne dites pas de vaines redites. » Ah! Ça, c'est pas un Notre Père des prières qui sont apprises par cœur puis qu'il faut répéter, répéter, répéter. Dans le même chapitre de Matthieu 6, il va dire « Si tu donnes de l'argent, que ta main droite ne sache pas qu'est-ce que ta main gauche donne. » Elle ne sait pas. Si ma main droite ne le sait pas, imaginez-vous comment les autres membres de l'Église puis de ma famille ne savent pas que j'ai fait un don. Et le Père qui te voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire ici? C'est que c'est facile de faire un gros chèque en carton puis de dire « j'ai donné 1 000 $ à cette bonne cause-là ». Tu sais, c'est qui est glorifié? Ah, il est bien don généreux, il est bien don fin. Ah, c'est qui prend la gloire? Dieu puis moi. Mais si je fais un chèque, puis ma main droite ne sait pas, ben en passant, votre femme devrait le savoir, par exemple, vous faites un chèque. Là, ça, c'est un autre principe de la Bible, là, qu'on est quand même co-ouvrier sur le revenu familial. OK? Ma main droite ne sait pas ce que ma main gauche fait. Puis il dit, quand tu jeûnes, ne prends pas un air misérable pour que les gens disent, il jeûne. il faudrait qu'on se parfume puis que ça paraisse pas. Puis il dit, le Père qui te voit dans le secret va te le rendre. J'écoute une émission, ça s'appelle Life in Peace. Ça fait 3 fois que je le réécoute. C'est trop drôle. Il y a un gars qui s'appelle Greg, quoi? Greg Short. Puis Greg Short, il a reçu un héritage de sa grand-mère, Gigi, tu sais, puis là, ils sont là à table, dit, vous allez faire quoi, vous, avec l'héritage? Puis là, tout le monde l'a dit, il dit, moi, il dit, c'est anonyme. Puis là, tu sais quoi? Ben, il dit, j'ai fait un don à l'école où ce que j'allais quand j'étais jeune, j'ai acheté un banc, puis tout, tu sais. Fait que là, il s'en va où ce qu'il a acheté le banc, là, en aluminium, puis tout, tu sais. Puis il a mis une plaque, tu sais, puis la plaque, c'est marqué d'un donateur anonyme, tu sais. Fait que là, il s'en va, puis il prend une photo, tu sais. Là, il prend une photo, hey, puis là, son frère, il vient. Puis il voit le banc, tu sais. Fait que Greg, il dit à son frère, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, il dit, je suis venu voir le banc que j'ai donné. Fait que là, le coach, il entend dire que c'est son frère qui a donné. Fait que là, il fait un éloge. Il dit, le coach, il va voir les autres. Il dit, hey, venez voir! Il a fait qui a donné le banc, tu sais. Fait que là, Greg, ça vient chercher. Ça vient chercher pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la reconnaissance pour quelque chose qu'il a fait. Puis dans le monde spirituel, c'est beaucoup comme ça. Dans le temps de Jésus, on se mettait sur le coin des rues, puis on faisait des prières. On faisait des prières, puis là, les gens disaient, « Ah, qui est donc bien spirituel, écoute comment il prie, tu sais. » Mais quand tu pries tout seul dans ta chambre, là, puis la porte est fermée, puis il n'y a personne pour t'entendre tes belles prières, bien là, on est vrai là avec le Seigneur. Puis c'est vraiment le Seigneur qu'on cherche, tu sais. Et non pas à paraître juste devant les autres. En tout cas, j'avais trouvé ça bien drôle, l'histoire du bain, ça m'a fait bien rire. Je vais terminer mon message avec quelques bonnes raisons de passer du temps seul avec notre Père Céleste. Premièrement, avoir une vie cachée avec notre papa. La relation avec papa, c'est la plus proche qu'on peut avoir que celle que Jésus a avec son propre fils. Puis Dieu dit qu'il nous donne comme héritage quoi quand on accepte le Seigneur comme notre sauveur personnel? On accepte d'être placé dans la position de fils et fille de Dieu. Et donc, c'est la relation la plus proche du Créateur de l'univers avec nous, c'est celle de l'intimité comme le Père avec son Fils. Dieu n'est pas intéressé à des chrétiens en batch. Oui, il aime le repas de famille, comme je disais tantôt, mais il désire beaucoup plus que vous voir seulement dans une réunion d'église. Il aimerait écouter vos prières. La Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a envoyé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On peut l'appeler papa. Dans Galates 4:6, c'est écrit qu'il a mis en nous l'esprit de son Fils qui crie papa. Dans Jean 16:26, Jésus dit, « Je ne prierai pas le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Avant la résurrection, Jésus dit, « Priez notre Père. » Après la résurrection, Jésus dit, « Le Père lui-même vous aime. » Puis après ça, c'est écrit quoi? On crie « Papa, notre Papa, mon Papa. » Pas le Père de la nation d'Israël, mon Papa. Deuxièmement, donc premièrement, parce que c'est la relation la plus proche qui ressemble à celle du Seigneur avec son propre Père. Numéro 2, pour ne pas tomber dans le piège de « Dieu vous aime et les gens ont un plan pour votre vie ». Autrement dit, il va tellement avoir de besoins, mon employeur va avoir besoin de moi, l'Église va avoir besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi, qu'on va se donner pour les autres, mais on ne se sera pas donné au Père en premier pour qu'il nous donne à notre travail, qui nous donne à notre famille, puis les gens vont commencer à avoir un plan pour notre vie. Ils vont planifier de remplir notre horaire parce que les besoins nous dépassent tous et on va passer à côté de ça. Troisièmement, pour aligner mon but et mes objectifs sur ceux du Seigneur. Vous savez que si on s'approche ensemble du Seigneur, il y a des choses qu'on a en commun, mais on a des choses qu'on n'a pas du tout en commun. Les choses qu'on n'a pas en commun, c'est les dons et les ministères que Dieu nous a accordés. Moi, mon don, il n'est pas pareil comme celui de Solange. La journée que je vais passer demain n'est pas la même que la journée de Solange. Solange, elle a ses défis et ses gens à rencontrer. J'ai mes défis et mes gens à rencontrer, et c'est deux mondes, complètement. Le Seigneur, dans ce temps privé-là, avec lui, il va lui donner des œuvres et des paroles pour les gens qu'elle a autour d'elle. La même chose pour moi. aligner mon but et mes objectifs sur ceux du Seigneur, parce que dans Éphésiens 2:10, c'est écrit que on a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu prépare d'avance, que Dieu a préparé d'avance. Donc, une direction individuelle où on a besoin de chercher le Seigneur individuellement, pas juste en Église. Quatrièmement, à un certain moment de votre vie, un parent, un conjoint, un être cher va vous être enlevé. Ça peut être par décès, par perte de vue, juste parce qu'on a un autre travail, par bris d'amitié, parce que vous êtes confiné, parce que les enfants et les petits-enfants sont occupés à faire leur carrière, leur vie, vous allez être tout seul. Et Dieu sait qu'à ce moment, vous aurez besoin de l'ami fidèle qui aime en tout temps. On n'est pas obligé d'attendre là. On n'est pas obligé d'attendre. On a besoin, ça va un peu avec mon point de tantôt, de savoir quoi faire, quoi dire, où aller. Sixièmement, pour offrir nos cris et nos larmes. Ils sont tellement personnels. Je ne sais pas pour vous, mais on ne souffre pas les mêmes affaires. On n'a pas les mêmes difficultés. C'est bon de prendre un frère ou une sœur et dire, « Veux-tu, on amène ça au Seigneur ensemble? » On a besoin d'apprendre à prier. Où est-ce qu'on dit, garde, ça fait longtemps que je n'ai pas prié, tu veux-tu juste demander avec moi? Mais le Père lui-même vous aime. Dieu n'a pas de petit-fils et de petite-fille. Kayla, tu veux-tu m'allumer un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. J'arrive à la fin. Souvent, les gens disaient, tu veux-tu prier pour moi, tu sais? Mais prie-toi pour toi. Ils n'ont pas confiance que le Père les aime. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Psaume 6, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Apocalypse, à trois reprises, c'est écrit que les prières sont comme un encensoir dans la présence de Dieu et elles sont une bonne odeur dans le tabernacle céleste ou dans le temple céleste, puis c'est les anges qui les offrent devant Dieu. Et tout de suite après, tu vois des actions qui sont entreprises. Des prières montent devant Dieu, le chapitre d'après, le verset d'après, des actions sont entreprises. Le Seigneur, ça y fait tellement chaud au cœur qu'on ne veut pas juste une réunion de famille avec lui, mais on peut lui donner nos fardeaux, nos peines, puis il va les écouter, il va nous conduire, il va nous diriger. Je résume notre message de ce matin. Jésus se prépare à un deuxième voyage missionnaire et se retire quand tout le monde dort encore pour être certain de faire ce que le Père a préparé pour lui. Il cherche non les besoins qui sont pressants, mais il cherche un Père qui l'aime et qui lui montre tout ce qu'il veut faire pour sa vie. Et Jésus, il sort, puis là, le matin, il est sorti, les gens le cherchaient, puis disaient, « Hey, reste avec nous autres », puis il dit, « Non. » Non, je m'en vais. Comment il pouvait être si solide, puis les gens, ils avaient plein de besoins? Comment il pouvait dire, non, il faut que j'aille dans les autres villages, aux alentours? Pourquoi il allait dans les synagogues et puis pas dans les maisons? Il allait là où il y avait une recherche de Dieu. Dieu lui avait demandé, mais il va avoir un certain moment, vous allez remarquer dans les évangiles, il n'ira plus dans les synagogues, il va prendre les doses, puis il va aller dans les maisons. Puis à un certain moment, il va avoir un secouement. On va prendre les chaussures, on va enlever la poussière de la chaussure, puis on va changer de village. On va voir ces stratégies-là vont changer parce que le Père va lui dire de changer cette stratégie-là. C'est un peu différent de d'habitude, hein? Un petit peu plus dévotionnel, un peu plus... Mais je voulais bâtir sur quelque chose que vous connaissiez déjà, quelque chose que vous aviez déjà comme connaissance. On va prier ensemble. va juste faire un petit moment de silence stratégique. Seigneur, ce matin, je te prie que personne, Seigneur, n'ait pris ce message-là comme étant une chose à ajouter dans leur horaire. Comme tu dis dans la parole, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu veux qu'on goûte que le Seigneur est bon. Merci, Seigneur, que tu diriges. On ne sait pas toujours comment. On est un petit peu comme à tâtonner, un peu comme quelqu'un qui marche dans le noir puis qui cherche son chemin. Hein, le passage que j'ai lu à la fin, tu comptes les pas de ma vie errante et tu recueilles tes larmes dans mon houte. Tu comptes les pas de ma vie errante. Combien de fois on se perd? Combien de fois on n'est pas dans le bon sentier puis on est obligé de rebrousser le chemin ou ajuster le chemin? Mais t'aimes ça voir tes enfants qui te cherchent. T'aimes ça voir tes enfants qui veulent savoir qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire avec moi. T'aimes ça voir des jeunes hommes, des jeunes filles, des messieurs, madame, des gens peut-être plus âgés aussi qui disent « Moi, j'ai fini de travailler, mais je suis pas en retraite spirituellement. Parce que tu as préparé des œuvres pour moi, puis moi, j'aimerais ça être la meilleure version de moi-même dans le monde présentement. » T'aimes ça voir quand on a de la peine, puis qu'on ferme la porte de notre chambre, puis qu'on te donne notre peine. Je te prie, Seigneur, que ce soit avec grâce qu'on ait reçu ce message-là, sans condamnation aucune. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a la Sainte-Seine.